Le journal Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour. La maman a été retrouvée, pas l'enfant. Une alerte enlèvement avait été déclenchée en soirée pour la petite Vanille, emmenée par sa mère, laquelle a été retrouvée dans un hôtel de Nantes. Mais aucune nouvelle de la fillette âgée d'un an et qui vit habituellement en famille d'accueil à Angers. Beaucoup de candidats au dépistage ce matin au Contamine Montjoie. Après les cas de coronavirus annoncés hier matin dans la station de Haute-Savoie, habitants et touristes ont été invités à se faire dépister. La ministre de la Santé, venue sur place, veut à nouveau rassurer la population. Dans ce journal également, quel bilan pour la police de sécurité du quotidien lancée depuis 2 ans, élargie l'année dernière à 32 quartiers par Christophe Castaner. On en parle avec le secrétaire national du syndicat Unité Police Force Ouvrière. La Thaïlande sous le choc après la tuerie perpétrée par un soldat dans un centre commercial. 27 morts, c'est sans précédent dans ce pays. Une loi contre l'homophobie en Suisse, le pays qui faisait encore exception en Europe, approuve la fin des discriminations à plus de 62%. En rugby, le deuxième match du tournoi est a priori le plus facile pour les Bleus France-Italie tout à l'heure au Stade de France. Et puis, les plus âgés auront reconnu les mystères de l'Ouest dans les années 70. L'acteur Robert Conrad, qui jouait James West, est mort hier. Il avait 84 ans. Enfin, on n'oublie pas la tempête Ciara dont parlait Jean-Michel Golinski. Première conséquence dans le Nord, pour l'instant, la fermeture du port de Calais.
France Inter.
À Angers, pas de nouvelles de la petite Vanille, mais sa maman a été retrouvée. Sa fillette âgée d'un an, qui vit habituellement dans une famille d'accueil, lui avait été confiée pour 48 heures, mais elle ne l'a pas ramenée comme prévu vendredi soir. Le procureur d'Angers avait déclenché une alerte enlèvement. Le procureur Éric Bouillard.
Le dispositif a permis ce matin de retrouver la maman dans un hôtel de la ville de Nantes. Notre inquiétude est extrêmement grande encore, parce que l'enfant n'a pas été retrouvé. Je vous rappelle rapidement les circonstances des faits. La petite Vanille fait l'objet d'un suivi éducatif. Elle est confiée à l'aide sociale à l'enfance. Et dans le cadre de ce placement éducatif, elle voit sa mère pendant un temps donné de la semaine. Cette semaine, c'était 48 heures qui étaient prévues. Sa maman étant accueillie, elle, dans un foyer maternel. Aucun incident majeur au cours des dernières semaines n'avait été noté. Simplement, des recherches locales ont été menées quand vendredi soir, elle n'a pas ramené l'enfant, samedi matin encore, avant qu'on se résolve à engager donc ce dispositif alerte en enlèvement.
La maman a été placée en garde à vue. Pour l'enfant, l'alerte reste en vigueur. Vanille, 1 an, de type métisse, yeux noirs, cheveux courts et frisés. Ne pas intervenir soi-même si on pense avoir vu quelque chose, appeler le 197. Éviter la psychose au Contamine Montjoie, en Haute-Savoie, après l'annonce des 5 cas de coronavirus, 5 Britanniques qui ont séjourné dans la station. Personne n'a vraiment l'esprit tranquille ce dimanche, ça se comprend. Malgré les assurances apportées par les autorités et la ministre de la Santé venue sur place ce matin, on se dit qu'on a pu être en contact avec l'une des personnes contaminées, d'où l'installation d'une cellule de dépistage où ceux qui le veulent peuvent venir se faire tester, Guillaume Batin.
Cette cellule est installée dans le centre d'animation dans les hauts de la commune des Contamines Montjoie. Les services de santé de l'hôpital d'Annecy, le SAMU, la Croix-Rouge, la sécurité civile travaillent ensemble, tous masqués à l'intérieur. Et depuis 9h ce matin, les familles arrivent, se présentent devant les portes. Les parents accompagnent leurs enfants qui étaient en classe avec le garçon britannique de 9 ans qui est positif au virus. Et certains sont assez inquiets, comme Lucille qui vient faire dépister toute sa famille et en particulier sa grande fille de 9 ans, camarade de classe du jeune garçon.
Même si tout le monde se veut rassurant, n'empêche que c'est des procédures qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Donc voilà, on est forcément un peu inquiet. Comment on a géré ? Ben, on a attendu les appels des différentes instances qui nous ont expliqué les procédures. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Voilà, donc on est plutôt dans l'attente. Pour le moment, en tout cas, ma fille va bien, donc voilà, on espère que ça continuera comme ça.
Les familles entrent au compte-gouttes dans le centre de dépistage. La première à avoir été prise en charge, c'est la maîtresse de l'école. Ils sont une 30aine de personnes à patienter dehors, dans le froid. Et certains commencent à partir, agacés de devoir attendre si longtemps.
Guillaume Batin, 2 écoles, des Contaminés et de Saint-Gervais, seront fermées cette semaine, le temps justement que les enfants puissent être dépistés. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, venue sur place ce matin, s'est de nouveau voulu rassurante.
Il est très important d'abord de pouvoir rassurer les habitants de ce village qui n'ont pas été en contact et qui n'ont donc pas été appelés. Donc il faut leur dire qu'il n'y a aucun risque, évidemment, quand on croise les gens dans la rue. Ce n'est pas cela, être en contact d'une personne contaminée. Il faut un contact étroit, soutenu, en face de la personne, ou un contact charnel. Il faut se toucher. Donc aujourd'hui, les risques sont évidemment très faibles pour l'ensemble de la population. Donc nous sommes là pour expliquer, pour donner des informations concrètes. La situation est évolutive. Je pense que dans l'après-midi, nous aurons la totalité des réponses que nous attendons.
Voilà, Agnès Buzyn ce matin au Contamine. Et puis cet après-midi, de nouveaux Français rapatriés de Chine sont attendus à Istres. Ils avaient été rapatriés par un avion britannique.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decan.
C'était il y a un an, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lançait à Dreux en Eure-et-Loire une deuxième vague de 32 QRR, quartier de reconquête républicaine, quartier réputé difficile, dans lesquels devaient être déployées les nouvelles brigades de la police de sécurité du quotidien voulue par le candidat Macron. Un premier contingent de 15 quartiers avait été mis en place en 2018 par le précédent ministre Gérard Collomb, ce qui s'est traduit dans les faits par l'arrivée de 15 à 30 policiers supplémentaires censés mieux s'intégrer à la vie quotidienne des habitants, mieux dissuader la délinquance, notamment les dealers. Dans l'une des communes qui en avait bénéficié, à Roubaix, le maire, Guillaume Delbar, semblait plutôt satisfait et optimiste, il le disait en septembre dernier sur Grand Lille TV.
Ça a été l'occasion de noter un retour de la confiance entre les habitants et la police, des vrais résultats et encourageants, alors qu'ils ne règlent pas tous les problèmes. Mais c'est vrai que pour moi, c'était d'autant plus important qu'il y a 2 ans, j'interpellais le président de la République lors de sa venue à Roubaix pour dire que c'était pas normal qu'on continue à perdre des effectifs alors qu'on était en zone de sécurité prioritaire. Donc pour moi, c'est aussi une satisfaction parce que ça veut dire qu'on a été entendu. On était passé en dessous des 400 policiers, on est maintenant à plus de 420. Donc la tendance est intéressante. C'est pas en quelques mois qu'on règle des problèmes qui existent depuis plusieurs années, mais on voit un changement de climat, on voit une confiance qui revient. Et moi, c'est la première question que je pose aux habitants, aux commerçants quand je viens dans ce quartier-là, et tous ont vu des différences.
Invité de ce droit de suite, Yves Lefebvre, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous partagez cette confiance, cet optimisme du maire de Roubaix?
J'ai eu partagé cet optimisme quand effectivement Gérard Collomb et ensuite Christophe Castaner ont voulu mettre en place ces QRR. Force est de constater aujourd'hui qu'on n'a pas les moyens pour les faire. Pourquoi ? Parce que des événements, hein, les conflits sociaux, des gilets jaunes aujourd'hui, de la réforme des retraites font que les effectifs sont, je dirais, déviés de leur mission essentielle. Donc on ne voit rien arriver de positif, beau projet, mais qui malheureusement ne se concrétise pas réellement dans les faits.
Mais ce sont quand même 15 à 30 policiers de plus à chaque fois.
Oui, non, mais on ne prend jamais en considération, si vous voulez, la pénurie des effectifs, la jachère des effectifs en amont. D'ailleurs, le maire de Roubaix le relatait dans son interview. On a eu perdu quand même 13 000 policiers et gendarmes sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. François Hollande a remis à niveau quelques effectifs, notamment pour le renseignement ou la lutte antiterroriste. Mais la police du quotidien aujourd'hui, il faut prendre en considération les départs à la retraite, les mouvements de mutation. On n'a pas aujourd'hui une lisibilité sur les besoins en effectifs réels dans la police nationale. Et malheureusement, ces effectifs sont détournés de leur mission, qui est celle de la reconquête des territoires.
Alors sur le principe, en tout cas, vous pensez toujours que c'était une bonne idée, c'est une belle idée.
Oui, bien sûr, c'est une belle idée. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on puisse renouer le contact avec la population, il faut qu'on puisse apporter la confiance à ceux qui font confiance à la police nationale et permettre d'enrayer les trafics divers et variés et arrêter ce tsunami de propagation de la violence antipolicière, de dénigrement de la violence antipolicière. Vous savez, la tribune de l'Humanité d'hier atteste de cette volonté de certains d'aujourd'hui de stigmatiser la police et d'aller à contre-courant de cette reconquête.
Vous parlez de cette tribune qui parlant des violences policières.
Bien sûr.
Alors, des morts, même. Voilà. Cette police de sécurité du quotidien, ce n'est pas une police brutale, mais une police forte qui inspire le respect, disait Christophe Castaner. On voit la nuance entre brutale et forte. C'est tout à fait ça l'idée.
Bien sûr, mais vous savez, la brutalité, moi je la récuse complètement, la brutalité, elle est en réponse des actions, je dirais, musclées de la police, sont quasi systématiquement en réponse de violences subies. On ne peut pas aller dans ces reconquérir ces quartiers, parce que le mot reconquérir a tout son sens. La reconquête républicaine, c'est-à-dire imposer des lois de la République tout en réinstaurant un dialogue et en redonnant confiance à ceux qui aujourd'hui ont besoin de cette police et mettre à mal tous ces trafics. Mais le trafic de stupéfiants aujourd'hui est encore malheureusement en développement dans la plupart de ces zones, je dirais, de non-droit, sur un plan un chat. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas les moyens pour se faire.
Il ne s'agit pas de jouer au foot avec les délinquants, comme le disait Nicolas Sarkozy.
C'est fini ce temps-là. Mmh. Vous savez, la police de proximité voulue à la fin des années 90 par Jean-Pierre Chevènement ne peut plus aujourd'hui avoir place. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il y a une défiance, il y a une violence. On a eu une malheureuse évolution générationnelle. Et aujourd'hui, c'est les trafics qu'on constate depuis maintenant, je dirais, 10-15 ans, n'existaient pas encore à ce niveau du temps de Jean-Pierre Chevènement.
Mmh. Yves Lefebvre, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, merci d'avoir été l'invité de ce droit de suite. Faut-il accompagner la vie sexuelle des handicapés ? La secrétaire d'État Sophie Cluzel se dit favorable à cette idée qui reste un sujet tabou en France, alors que d'autres pays ont déjà prévu de tels accompagnements. La secrétaire d'État chargée des handicapés vient d'écrire en ce sens une lettre au professeur Delfrécy, le président du Comité national d'éthique, pour avancer sur la question, comme le demandent d'ailleurs les associations. La lettre est publiée ce matin par le Journal du Dimanche. Il faut rouvrir la réflexion éthique, écrit Sophie Cluzel, et aborder ce sujet de l'assistance sexuelle avec une vision renouvelée. À l'étranger, en Thaïlande, un soldat qui perd la boule et qui tue 26 personnes avant d'être lui-même abattu. Jamais le pays n'avait connu ça. Le tueur aurait eu des motivations personnelles, selon le Premier ministre, qui ne dément toute négligence des autorités. Au lendemain de cette tuerie, en tout cas, les habitants de Korat, au nord-est du pays, veulent comprendre. Carole Izou, vous êtes à Bangkok.
Mais oui, parce que la Thaïlande a certes des gangs, des mafias, des armes à feu en grande concentration, c'est vrai. Les règlements de compte, ils sont monnaie courante. Mais un tel déchaînement de violence à l'aveugle, c'est une première dans le pays. La virée meurtrière du sergent de 32 ans a démarré hier vers 15h dans la caserne où il résidait, où il s'est emparé de plusieurs armes. Puis il a d'abord abattu son supérieur hiérarchique et deux autres personnes avant de prendre la direction du centre commercial en continuant à faire des victimes sur son chemin. Il est resté à l'intérieur du bâtiment où il a fait la plupart de ses victimes jusqu'au petit matin où il a finalement été abattu par la police. Jusqu'en début de soirée, il retransmettait en direct sur sa page Facebook toutes ses actions qu'il avait justifiées par un sentiment de rage envers, je cite, « ces riches qui profitent des pauvres, pourront-ils emmener leur argent en enfer ?» Selon le Premier ministre, il aurait eu des problèmes personnels à propos d'un terrain. La Thaïlande est classée parmi les pays au monde avec les plus fortes inégalités.
Carole Izou à Bangkok. Les élections en Irlande, beaucoup plus serrées que prévu, le Premier ministre Leo Varadkar, ses concurrents du centre droit et le parti républicain Sinn Féin, partisan d'une réunification de l'Irlande, sont au coude à coude dans les sondages sortis des urnes, tous autour de 22% des voix. Résultat définitif normalement cet après-midi. En Suisse, le résultat ne faisait aucun doute. La votation sur l'interdiction des discriminations liées à l'orientation sexuelle s'est soldée par un oui massif, 62%, ce qui semblait aller de soi, mais ça va mieux en le disant, Jérémy Lanche.
Le résultat du vote n'est pas une surprise, exception faite du parti populiste de droite UDC, quasiment tous les autres ont soutenu le texte. Désormais, le code pénal ne fera plus de différence entre la discrimination fondée sur l'appartenance raciale, ethnique, religieuse ou sur l'orientation sexuelle. Didier Bonny est le coprésident de la Fédération romande des associations LGBT.
Il y aura toujours une part d'homophobie, mais par contre, on ne pourra plus dire tout et n'importe quoi d'une manière publique. Par exemple, tous ces PD, il faut les brûler, toutes ces gouines, il faut les remettre dans le droit chemin. Toutes ces choses qui sont actuellement autorisées, on peut les dire en public. L'important d'une loi, c'est de mettre des limites à celles et ceux qui n'arrivent pas à s'en mettre eux-mêmes.
Des insultes homophobes, il y en a eu pendant la campagne. La Tribune de Genève rapporte le cas d'une militante victime de propos haineux dans le tram. Des propos encore plus répandus sur les réseaux sociaux. Là aussi, leurs auteurs pourront maintenant être sanctionnés. L'homophobie n'est pas une opinion, rappellent les associations de défense des droits LGBT. Mais la nouvelle norme va au-delà des attaques verbales. Des restaurants ou des hôtels ne pourront plus, par exemple, refuser des clients homosexuels sans s'exposer à des poursuites. Une exception suisse qui faisait tache en Europe alors que le pays n'est classé que 28e pour le respect des droits LGBT. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
En sport, un coup de tonnerre dans le judo mondial à moins de 6 mois des JO. Teddy Riner, qui brigue un troisième sacre olympique à Tokyo, s'est incliné ce matin pour la première fois depuis plus de 9 ans. Il a été battu dès le 3e tour du Grand Slam Bercy, le tournoi de Paris. C'est le numéro 2 japonais Kokoro Kagura qui a mis un terme à sa vertigineuse série de 154 combats remportés de suite par Teddy Riner, qui est double champion olympique en titre des poids lourds, décuple champion du monde. Il n'avait plus été battu, Teddy Riner, depuis le 13 septembre 2010. En rugby, le deuxième match des Bleus dans le tournoi Destination tout à l'heure. Un adversaire a priori plus facile que les Anglais la semaine dernière, France-Italie au Stade de France. Des Italiens qui n'ont plus gagné dans le tournoi depuis 4 ans et qui se sont fait battre la semaine dernière au Pays de Galles 42-0. L'esprit de revanche n'en sera que plus fort sans doute. Mais les Bleus ont du répondant. On a vu face aux Anglais qu'ils pouvaient être très efficaces en défense, peut-être d'ailleurs grâce à un Anglais, justement, le nouvel entraîneur de ce secteur de jeu, Sean Edwards, qui vient de rejoindre l'encadrement des tricolores, Vincent Pellegrini.
Il y a une semaine, il était le seul Anglais à avoir le sourire après la victoire du 15 de France. Et son nom est beaucoup revenu dans les commentaires d'après-match. Quand il a bâti son staff, le nouveau sélectionneur Fabien Galthié avait fait de l'arrivée de Sean Edwards une priorité. Ancien international de rugby à 13, il a entamé sa carrière d'entraîneur de rugby à 15 dans le club anglais des Wasps, où il a eu sous ses ordres l'actuel manager des Bleus, Raphaël Ibanez.
Ce qui le caractérise surtout, c'est son esprit de compétition. En fait, Sean, tout ce qui l'obsède durant la semaine, c'est de se préparer pour le week-end. Et je pense qu'il transmet ça, mais pas simplement sur des mots, parce que les mots, les paroles s'envolent vite. Mais lui, c'est aussi à travers un contenu technique hyper précis, hyper détaillé et qui manifestement plaît déjà aux joueurs parce que ce n'est que le début.
Les Bleus ont découvert Sean Edwards à Nice lors des 2 semaines de préparation de ce tournoi. Un homme un peu austère et très perfectionniste, confie le deuxième ligne Boris Palu.
C'est un sacré personnage, oui. Bah, c'est simple, il parle pas beaucoup. Il est très direct, il sait ce qu'il veut, il sait comment le bosser. Et il nous amène surtout des ateliers que moi, par exemple, j'avais jamais travaillé. C'est direct et c'est précis. Ouais.
Après le match d'aujourd'hui face à l'Italie, le 15 de France se déplacera à Cardiff dans 2 semaines pour affronter une équipe galloise dont Sean Edwards a façonné la défense pendant 11 ans.
Voilà, France-Italie, c'est à 16h. Hier, les Bleus, battus par l'Angleterre la semaine dernière, ont dominé les Italiennes. Les Bleus ES ont dominé les Italiennes 45-10. Allez, il s'appelait West, James West. Il était le héros d'une série que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, Les Mystères de l'Ouest. L'acteur Robert Conrad est mort hier à Los Angeles. Il avait 84 ans. Il avait été aussi le papy Boyington des Têtes Brûlées, Grégory Phillips.
The Wild Wild West.
En 1965, Robert Conrad décroche le rôle principal de la série Wild Wild West, diffusée sur CBS et en France sous le titre des Mystères de l'Ouest. Il suffit de 3 notes de musique pour qu'immédiatement reviennent en mémoire le visage, le charme et les yeux clairs de celui qui incarne alors James T. West, agent des Secret Service américains. Robert Conrad poursuit sa carrière essentiellement à la télévision. À partir de 1976, il joue dans la série Black Sheep Squadron, connue en France sous le titre Les Têtes Brûlées. Conrad y incarne alors le célèbre papy Boyington, qui dirige une escadrille de pilotes américains, forte tête, pendant la guerre contre le Japon. Conrad adorait ce rôle, il avait même appris à piloter pour l'occasion. À Hollywood, Robert Conrad avait la réputation d'être un dur à cuire. Il continuera à tourner dans quantité de séries télévisées, mais finalement assez peu au cinéma. Sa dernière apparition à l'écran remonte à 2002. Les Américains avaient redécouvert Wild Wild West 3 ans plus tôt, quand Will Smith avait repris au cinéma ce rôle de James T. West, mais le film était très loin d'avoir le charme de la série originale. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Eh oui, jamais la copie n'égale l'original. En rappelant pour terminer que la tempête Ciara est arrivée sur le nord et l'ouest de l'Hexagone. 35 départements sont en alerte orange au vent violent. Les Ardennes et la Lorraine seront également concernés. On attend 140 km/h, notamment sur les reliefs des Vosges. Des rafales à plus de 130 km/h ont été enregistrées au Royaume-Uni, où tous les transports avions, trains et bateaux sont perturbés. À Bruxelles et Amsterdam, de nombreux vols ont été annulés. Première conséquence déjà dans l'Hexagone, le port de Calais qui a été fermé par précaution.